Nous allons aborder cet après-midi un sujet qui est important. La première fois que j'ai médité sur ce sujet, je pensais en faire une réunion d'évangélisation, c'est-à-dire pour amener les pécheurs à la lumière, les perdus au salut. J'ai pensé que le bonheur dans la Bible, ça s'adressait aux pécheurs. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens n'étaient pas heureux. Les évangélistes prêchent à tue-tête, convertissez-vous et vous serez heureux. Alors est-ce que c'est vrai ça? Ça devrait. Et c'est vrai que lorsqu'un pécheur passe des ténèbres à la lumière, lorsqu'un pécheur a pour père le diable et qu'en acceptant Jésus-Christ au calvaire, Dieu devient son père, il doit y avoir une véritable joie. La grâce de Dieu vous tombe dessus, vous êtes bouleversé par le pardon des péchés. Et il y a un véritable bonheur qui s'installe. D'ailleurs, David exprime le bonheur dans Romains au chapitre... On va lire un premier texte. David, justement, dans Romains, exprime le bonheur. « Je vous encourage, si vous n'êtes pas heureux, à prendre note des versets que l'on va lire et à les méditer pendant quelques jours. » Je vous assure, cette prédication, elle m'a été imposée. Il y a des chrétiens qui sont pas heureux. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans Romains, au chapitre 5, il y a une parole, Romains chapitre 4, verset 6. Regardez bien, David a expérimenté quelque chose. Et il l'exprime. Romains 4, verset 6. « De même, David exprime le bonheur de l'homme, à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. » L'expérience du pardon des péchés. David exprime le bonheur. Le bonheur, il s'exprime. L'angoisse, ça s'exprime. La dépression, ça s'exprime. Les gens qui sont dans le malheur, ils l'expriment d'une façon ou d'une autre. Mais le bonheur s'exprime. Alors, David n'a pas toujours connu le bonheur. D'ailleurs, si vous venez avec moi dans le psaume 4, il pose une question. Il pose une question. Psaume 4. Il pose une question que tout le monde se pose. David l'a posée, elle se pose. C'est pas lui qui se la pose, c'est plusieurs qui se la posent. Psaume 4, verset 7. Plusieurs disent, est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes posent la même question, qui nous fera voir le bonheur? Est-ce que les gens cherchent le bonheur aujourd'hui? Ben oui, les gens courent après le bonheur. Cette question, elle est d'actualité. Qui nous fera voir le bonheur? Alors qu'est-ce qu'il ajoute? Fais lever sur nous la lumière de ta face. Voilà ce qu'on a besoin cet après-midi. Que Dieu nous éclaire. Alors qu'est-ce qu'il dit? Verset 8. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui est dans le vrai bonheur? Il se couche en paix. Et dans un monde de malades comme nous sommes aujourd'hui, s'endormir en paix, je crois que c'est un grand privilège. Vous ne le croyez pas? C'est une bénédiction de s'endormir en paix. Alors, cette question, elle est là. Qui nous fera voir le bonheur? Et je voudrais, très sérieusement, que vous notiez les textes que l'on va lire. Que vous les notiez, non pas pour les mettre dans un bout de carton, mais pour que vous les méditiez, car je vous assure, le bonheur, Dieu le donne. Vous le croyez que Dieu donne le bonheur? Oui. Beaucoup de chrétiens sont heureux en espérance. Ils sont heureux parce que Jésus va revenir, parce qu'ils savent qu'après leur mort, ils vivront avec Dieu dans la gloire éternelle. Alors, c'est tellement extraordinaire, même si c'est virtuel, c'est tellement extraordinaire. Bon, même si les gens se disent, bon, ben, si je souffre encore, quelqu'un est sur la terre, bon, ben, je me résigne, c'est comme ça, de toute façon, c'est pas bien grave, je serai heureux pour l'éternité dans le ciel. Bon, vous allez me dire, est-ce que ça tient debout, ça? Oui, ça tient debout. Franchement, l'éternité dans le bonheur. Est-ce que ça ne tient pas debout? Vous avez mangé? Non? Nous, non. Est-ce que ça tient debout que quelqu'un dise, même si je ne suis pas quand même heureux sur la terre, puisque j'ai accepté Jésus comme sauveur, je serai heureux pour l'éternité. Est-ce que ça tient debout? Ben oui. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Bien sûr que Dieu veut que l'on soit heureux en espérance. Mais Dieu veut que l'on soit heureux aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Alors le bonheur, c'est quoi? Est-ce que c'est bien d'être comblé au niveau matériel? Est-ce que c'est bien d'avoir tout ce qu'il faut? Peut-être que vous avez été comblé matériellement, peut-être que vous avez pu acquérir une maison, que vous avez pu avoir une jolie voiture. Est-ce que c'est bien? Soyons honnêtes. Hein? Soyons honnêtes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien d'être comblé au niveau affectif, au niveau sentimental? Est-ce que c'est bien d'être aimé, d'aimer, d'avoir pu fonder un foyer? Est-ce que c'est une bénédiction? Oui? Bon. Est-ce que c'est bien de réussir sur le plan professionnel? D'avoir un bon métier, est-ce que c'est bien? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que Dieu vous a comblé dans ces domaines? Parce que vous savez, si on pousse la spiritualité, les gens vont dire « Non, le bonheur, c'est pas ça, on s'en fiche de tout ça. » Je crois que c'est pas honnête. Je crois véritablement que c'est une bénédiction d'avoir un bon travail, une bonne famille, d'avoir de l'argent, d'avoir la santé. D'avoir la santé, c'est pas une bénédiction? Est-ce que c'est pas une grâce d'avoir de la santé? Vous vous rendez compte? La quantité de gens qui sont malades, si vous avez un doute, le culte va finir dans 30-40 minutes, vous allez à quelques kilomètres d'ici, à Rangueil, vous allez au quatrième étage en traumatologie, vous y restez demi-heure, vous passez dans les chambres, vous regardez, et vous allez voir que de marcher, c'est formidable. Vous allez voir? Allez en traumatologie, écoutez-je, vous y allez de ma part, on en vient de la part du pasteur Hugo. Voilà. Vous savez que vous allez voir des services entiers de gens qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas bouger. Avoir la santé, c'est une grande bénédiction. Tout ça, ça contribue au bonheur. Bien sûr qu'on peut dire l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Mais enfin, je pense quand même que c'est facile à dire quand on a de l'argent. Mais franchement, moi je crois quand même que c'est une bénédiction que Dieu nous comble. C'était quand même écrit dans la parole de Dieu que Dieu nous donne ses bienfaits afin que nous en jouissions. Oui ou non? Bon. Mais le bonheur, ce n'est pas que ça. Merci Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. D'accord? Oui, il n'y en a que trois qui ont dit Amen. C'est pas grave. Je persiste. Est-ce que vous pouvez dire merci Seigneur pour tout ce que j'ai? Bon. C'est une grande faveur, mais on va voir que le bonheur, ce n'est pas ça. Il y a d'autres valeurs que l'argent, le travail, l'amour, le matérialisme. On revient au psaume 4. David exprime une pensée qui introduit bien le sujet. Regardez ce qu'il dit au verset 8, on l'a lu tout à l'heure, mais c'est bien de le relire, c'est pour ça que j'ai lu « Fais lever sur nous ta lumière ». Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. David est en train de parler de ceux qui ont été comblés matériellement, qui ont les greniers remplis. Bien sûr, aujourd'hui, on ne parle pas de greniers. La richesse ne se mesure plus dans les greniers, à part dans les campagnes, peut-être. On pourrait parler de compte en banque aujourd'hui. D'accord? Hein? Et David est en train de dire, mais moi, la joie que j'ai, elle est plus grande que ceux qui ont leur compte en banque rempli. C'est ce qu'il est en train de dire. David a été comblé. Est-ce que vous avez lu l'histoire de Samuel, tout ça, vous l'avez lu? David a eu des choses formidables que nous n'aurons jamais. David a été, il était quoi au début? Il était berger. Il était berger, c'était commun. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu roi. C'est bien d'être roi? Oui? Vous aimeriez devenir roi? Président de la République, vous aimeriez? Hein? Madame Jacobé, c'est sérieuse. Bon, est-ce que David a été riche? Vous avez vu l'argent qu'il a donné pour la construction du temple? Moi, je trouve qu'il était très, très, très riche. Bon, il a donné immensément à son fils Salomon pour qu'il puisse réaliser la construction du temple. La gloire, est-ce qu'il a eu la gloire, David? Quand est-ce qu'il a eu la gloire? Quand est-ce qu'il a commencé à avoir la gloire? Il vous faut m'aider, c'est la deuxième prédication de la journée. Quand est-ce que David a eu la gloire? À quel âge il a eu la gloire? Quand il a tué Goliath, est-ce qu'il n'a pas eu la gloire? Quand toutes les femmes d'Israël chantaient « Saül a tué ses mille !» Elles n'auraient pas dû rajouter la suite, mais enfin, l'ont dit. Et David en a tué 10 000. Alors ça n'a pas tourné bien. Est-ce qu'il n'a pas eu la gloire? Oui, il l'a eu. Hein? Il a eu toutes ces choses, mais ce n'est pas ça qui l'a rendu heureux. Alors on va voir quatre choses. Je vous encourage vraiment à écouter, mais à y revenir. De même, peut-être, pour votre culte personnel, mardi, mercredi, jusqu'à ce que ces choses soient gravées dans votre cœur, afin que vous ne passiez pas à côté du bonheur que seul Dieu peut donner. Alors, il a eu le bonheur que la foi procure. Ils sont nombreux les passages, dans les psaumes en particulier, où on voit la bénédiction, le bonheur que procure la foi. Psaume 34. Notez ces textes. Alors, par contre, dans les psaumes, ce verset revient souvent. Psaume 34, verset 9. C'est David qui a écrit ça. Alors, tous les textes sont des textes de David. Psaume 34, verset 9. « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Quand David a écrit ça, il avait fui. Il avait fui à cause justement du roi Saül qui voulait le détruire. Et il était parti se réfugier chez les Philistins. Il a cherché refuge ailleurs que dans son pays. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas chez les Philistins qu'il pourrait être en paix. C'est là qu'il a écrit ce psaume et qu'il a dit « Heureux l'homme qui se réfugie en l'Éternel. » Alors je vous pose la question. Bien sûr qu'on vient à l'Église, bien sûr que vous lisez la Bible, bien sûr que vous croyez en Dieu. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que Jésus est vraiment votre refuge? Est-ce que vous pouvez dire, psaume 40, verset 5, parce que c'est ça, il faut que ça soit un fait. C'est un fait, la foi, même si c'est du domaine de l'invisible. Psaume 40, verset 5, « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » Longtemps, j'ai été embarrassé avec les chrétiens qui me disaient, « Oui, je prie, mais je ne sais pas. Enfin, je ne suis pas heureux. » Eh ouais. Il n'est jamais écrit « Heureux l'homme qui prie ». Parce qu'on peut prier comme les païens, on peut prier comme les hypocrites, on peut prier en vivant dans le péché, on peut prier le plafond. Mais l'homme, un homme qui se confie en Dieu, il est heureux. J'ai souvent dit que la foi et la prière, ça devrait être, pour ainsi dire, la prière et la confiance devraient être identiques. Mais voilà. Voilà, on peut prier pour prier, et quand on commence à dire, oui, ça ne sert à rien de prier, en plus, vous vous mettez contre Dieu. Quand vous me le dites, moi, ça me convient pas. Mais ce n'est pas grave. Que moi, vous me disiez quelque chose qui ne me convienne pas, ça n'a aucune incidence. Mais quand vous dites des choses comme ça, en vérité, vous vous mettez contre Dieu. Et c'est ça le problème. Vous croyez-vous que ça vous soulage? Ça, c'est loin de vous soulager. Ça ne va pas vous aider. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. C'est David qui l'écrit. Il n'écrit pas ça comme nous, on chante certains cantiques parce qu'on a l'habitude de les chanter, mais ce n'est pas sûr qu'on les vive, tandis que ce que David a écrit, il l'a véritablement vécu. Et chaque fois qu'il associe le bonheur à la foi, c'est véritablement une expérience. C'est pour ça qu'il faut vraiment que nous nous posions la question, est-ce que je vis par la foi? Quand je prie, est-ce que je crois que Dieu est là? Est-ce qu'il y a des textes qui nous montreraient que quand on prie, le Seigneur, il est là? Est-ce qu'il y en a des textes? Est-ce que vous croyez que quand vous priez, le Seigneur, il vous voit? C'est ça la foi. Je crois ce que Dieu dit. Et David était heureux parce qu'il avait confiance à Dieu. Le bonheur, le premier pilier vient, le bonheur vient de ce que la foi procure. La foi, alors c'est vrai qu'il faut l'expliquer, la foi c'est se reposer sur Dieu, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, vous connaissez la suite ? Repose à l'ombre du Tout-Puissant. La foi c'est se reposer sur Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Une instruction, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. La foi, c'est se reposer en lui. La foi, c'est se décharger de tous nos soucis. Nous avons tous des soucis, des petits, des gros. Vous en avez des soucis? Est-ce que ça vous arrive d'en avoir? Eh bien, la confiance, la vraie foi, c'est Seigneur, chaque souci, je m'en décharge. J'ai le fardeau de telle personne, mon fils est perdu. Seigneur, je me décharge de ce fardeau. Le fardeau va venir 20 fois dans la journée. Eh bien, 20 fois, je me décharge du fardeau. C'est ça, faire confiance à Dieu. C'est pas dire, ouais, j'en ai marre, je prie, ça sert à rien. Ça, c'est pas la confiance. C'est tout sauf la confiance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. La foi, c'est la confiance. Mon Dieu, dira David, mon Dieu, en toi, je me confie. La foi, c'est s'attendre à Dieu. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Moi, je vous le dis parce que, bon, c'est la vérité. Vous savez, des fois, je ne sais pas quoi faire. Vous savez ce que je fais? Je vais dans mon bureau, je m'assois ou je me mets à genoux. La position physique, ça n'a aucune importance. C'est l'attitude du cœur, surtout. Et je reste en silence et je pense à Dieu. Des fois, ça dure 5 minutes. Des fois, ça dure 2 minutes. Des fois, ça dure 2 heures. Mais je suis en accord avec moi-même. Et après, je me relève et je sais que Dieu agira. La foi, c'est savoir attendre en silence le secours de l'Éternel. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Prier, c'est pas forcément parler. Il n'est pas dit parler à Dieu. Il y a beaucoup de gens, prier, ils parlent. Ils font parler. Il n'est pas dit prier, c'est pas parler. Bien sûr que c'est parler à Dieu. Mais quand on prie, on peut être à l'écoute. Est-ce que c'est pas écouter Dieu aussi? Oui. La foi, c'est s'attendre à Dieu. C'est s'abandonner à Dieu. Alors, il y a beaucoup de textes. On n'a pas le temps de les voir tous parce que ça ferait trop. David a connu le bonheur parce qu'il savait se confier en Dieu. Le bonheur par la foi. Mais que serait la foi sans la grâce de Dieu? Et ça, il faut bien l'expliquer. Un chrétien me disait ce matin, mais d'où ça vient? Au début, quand on se convertit, on fait plein d'expériences avec Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce qu'au début, on expérimente la grâce de Dieu et on dépend de la grâce de Dieu. Et au fur et à mesure que le temps passe, on peut bien sûr mettre sa foi en Dieu, mais on ne réalise pas que la grâce, ce n'est pas que pour la conversion. La grâce doit nous accompagner tous les jours de notre vie. D'ailleurs, David, dans le psaume 23, dira, oui, c'est une affirmation, pour expliquer que c'est grâce à Dieu, parce que l'Éternel est mon berger, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et là, il lie le bonheur à la grâce. C'est bien la foi. Et c'est vrai que nous, les prédicateurs, nous exhortons les chrétiens à marcher par la foi. Mais la foi sans la grâce, c'est une grave hérésie. Nous avons besoin de la grâce de Dieu tous les jours. Et quand on s'approche de Dieu, on s'approche du trône de la grâce. Et les chrétiens sont parfois compliqués. Ils dépendent de la grâce de Dieu au début, comme un enfant qui dépend de... Un enfant, il le sait, sans en être conscient, qu'il dépend de sa maman. Est-ce qu'un bébé de 6 mois s'inquiète pour le biberon du lendemain? Est-ce que vous avez déjà vu un bébé de 3 mois ou 6 mois dire à maman, écoute maman, est-ce que vraiment il y a du lait pour demain? Est-ce que mon petit pot, ma blédine, elle est prête pour demain? Est-ce que ça viendrait à l'idée à un enfant? Pourquoi? Parce qu'un enfant... C'est psychologique. Il dépend de sa mère. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il se détache un petit peu. Et nous, au fur et à mesure que nous grandissons spirituellement, nous pouvons nous détacher petit à petit de la grâce et vivre par nos propres forces. La grâce, Dieu a dit un jour à Paul, ma grâce te suffit. Pour qu'il comprenne bien que voilà, la grâce, elle est là. Et David en parle au futur en plus. Il ne faut pas dire, oh, Dieu m'a fait grâce. Et on entend les chrétiens, oh, si vous saviez le jour de ma conversion, oh, comment Dieu m'a fait grâce. J'étais malade, Dieu m'a guéri, oh, j'ai vécu la grâce de Dieu. Ben oui, mais merci Seigneur pour le passé. Mais pourquoi ne dépendrions-nous pas de la grâce de Dieu aujourd'hui et demain? Et beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux parce qu'ils ne réalisent plus que la grâce de Dieu, c'est quelque chose d'actuel. À quoi servirait la foi sans la grâce, mes frères et sœurs? Vous avez vu ce verset? Oui, le bonheur et la grâce, oui. Est-ce que vous pouvez dire, dans votre cœur, ne dites pas haute voix, est-ce que vous pouvez avoir cette même assurance et dire, mais oui, je sais, moi aussi, le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'espère que vous pouvez le dire. Ça n'a rien à voir avec vos efforts, ça n'a rien à voir avec vos progrès, ça n'a rien à voir avec vos années de conversion, ça n'a à voir qu'avec la bonté de Dieu. La grâce de Dieu. Si la grâce n'existait pas, il n'y aurait pas oui. Si la grâce n'existait pas, il y aurait écrit non. Non, non, la bonheur, je ne l'aurais pas parce que je suis un pécheur. Le bonheur, je ne peux pas l'avoir parce que je ne fais aucun progrès. Le bonheur, je ne peux pas l'avoir parce que je suis indigne. Est-ce que vous sentez toujours digne? Vous vous sentez digne? Non. Hein? Ça serait non, non, parce que tu es un pécheur. Mais par la grâce de Dieu, c'est oui. Parce que ton sang me purifie, oui, j'ai droit à la grâce de Dieu. Parce que tu es mort sur le bois de la croix, oui, j'ai droit à la grâce de Dieu. Parce que tu es mort à ma place au calvaire, oui, j'ai droit à ta bénédiction. Oui, le bonheur et la grâce. Je répète, c'est au futur. Merci Seigneur pour la foi, la confiance, mais 10 fois plus merci pour la grâce de Dieu. La grâce, c'est l'opposé de la loi. Ça se complète, mais en même temps, c'est l'opposé. La loi, elle est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ, la loi, nous l'avons tous enfreint, donc nous sommes tous coupables, la loi nous condamne. Mais la grâce, elle, elle nous sauve, la grâce, elle nous réhabilite. Quand vous lisez la loi, vous lisez le premier commandement, vous vous jettez cuit. C'est pas vrai? Voilà, le premier commandement, on est tous d'équerre. Mais quand vous découvrez la grâce de Dieu, vous dites, oh, je suis sauvé, il m'a sauvé. Pourquoi? Parce que Jésus a payé à notre place pour que nos péchés soient pardonnés. La grâce, c'est ça. Je ne mérite pas, mais Dieu me bénit. Est-ce que vous voulez être heureux? Même pas pour vous. Mais est-ce que ce n'est pas important d'être heureux pour communiquer aux autres la grâce de Dieu? Est-ce que ce n'est pas une de nos responsabilités de communiquer aux autres la bénédiction? Même dans l'épreuve, on peut être dans l'épreuve et dans cette paix qui est un véritable bonheur. Est-ce que d'être dans la paix, ce n'est pas un véritable bonheur? Mais c'est clair. La grâce. Et David témoigne dans le psaume 23, mais ailleurs, que la grâce l'a accompagné et que la grâce l'accompagnera toujours. Est-ce que vous pouvez croire cela? Est-ce que vous pouvez dire, mais oui, c'est évident. Jusqu'à mon dernier souffle, j'en déduis que la grâce de Dieu m'accompagnera. Est-ce que vous voulez faire cette expérience? Combien de temps nous reste-t-il à vivre? Vous n'en savez rien. Mais quel que soit qu'il nous reste 2 minutes ou qu'il nous reste 20 ans, je veux dire, ça, au Dieu de l'éternité, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais est-ce que vous pouvez, par la foi, dépendre de la grâce et dire, oui, moi aussi, j'y tiens. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. David en parle au futur, je le répète, parce que c'est important. Merci pour le passé. Il y a des chrétiens, ils ne dépendent que du passé. Ah, j'ai fait cette expérience, je le répète, mais c'est pas vrai, vous en avez pas vu des chrétiens comme ça? Ils parlent que du passé. Alors c'est bien, c'est très très bien, c'est la preuve qu'ils ont fait des expériences. Mais moi il me semble qu'il vaudrait mieux en parler au passé, au présent et au futur. C'est maintenant la grâce de Dieu. Vous comprenez mes frères et sœurs? La vie de David, c'est quelque chose la vie de David. Vous avez lu les livres, hein? La vie de David. Alors, quel a été son premier exploit David? Est-ce que quelqu'un peut se le rappeler? Il y a quelqu'un qui doit s'en rappeler. Goliath, il doit s'en rappeler quelque part. Hein? Vous savez que le premier exploit de David, ça a été de tuer Goliath. Comment c'est possible qu'un adolescent ait pu détruire une montagne? Par la grâce de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous allez me dire, mais il avait la foi. Oui, oui, oui. Mais est-ce que s'il n'y avait pas eu la grâce de Dieu, il aurait pu le détruire? Non. Qu'est-ce qui lui a donné du courage? Parce que pour avoir du courage, c'est quand même quelque chose. Qui c'est qui lui a donné du courage? La grâce de Dieu. C'est un effet de la grâce de Dieu. Qui c'est qui lui a donné de viser juste? Est-ce que ce n'est pas la grâce de Dieu? Parce qu'il aurait pu trembloter un petit peu quand même. Est-ce que vous auriez admis qu'il tremble un peu? Hein? Qui c'est qui lui a donné de viser juste? Qui c'est qui lui a donné de rester humble après cette victoire où toutes ces femmes disaient oh, « il en a tué 10 000 ». C'est la grâce de Dieu. La grâce l'a accompagné tout le long de sa vie. Il en a eu des histoires, David. Vous trouvez pas, peut-être c'est le hasard, chaque fois qu'il a eu besoin d'aide, Dieu a mis sur son chemin quelqu'un. C'est quoi ça? C'est pas la grâce de Dieu? Dites-moi, est-ce que ça n'a pas été un peu le cas pour nous aussi, malgré si on ne peut pas se comparer à David, ce qu'il ne faut pas faire, mais est-ce que Dieu n'a pas mis à des moments donnés sur notre chemin quelqu'un qui nous a fait du bien? Un coup de fil, un courrier, un courriel, un entretien, tiens, je suis tombé sur ce frère, il m'a fait du bien. Ah, ce frère, il m'a rendu service. C'est pas la grâce de Dieu, ça? La grâce de Dieu l'a accompagné. Est-ce que vous croyez que la grâce de Dieu vous accompagnera? Vous croyez pas que Dieu est capable de mettre sur votre chemin quelqu'un qui va pouvoir vous aider? Est-ce que vous le croyez encore? Eh oui. Hein? La grâce. Et c'est pour ça qu'il exprime le bonheur, il a posé la question, mais dans le Nouveau Testament, on voit qu'il exprime véritablement le bonheur. Et je voudrais que ce soit notre expérience à chacun. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Parce que David a eu des exploits, David a fait des choses formidables, mais David, il n'a pas fait que des choses formidables. Et quand il dit, oui, j'exprime le bonheur parce que j'ai été pardonné, parce qu'il n'a pas été un homme parfait. Même s'il a été un homme selon le cœur de Dieu, ça n'a pas été un homme parfait. Il a fait des choses qui ne sont pas flambantes, hein. Il a commis l'adultère. Il a fait tuer le mari de cette femme qui faisait partie de son conseil secret. C'était un homme intègre. Quand vous voyez Uri, vous savez, moi je veux pas faire, on ne peut pas faire de différence, mais quand même. Quand même, la Bible parle des hommes droits. Il y a des gens qui ont occupé la terre inutilement, mais il y a des gens qui ont occupé la terre utilement. Et Uri, ce n'était pas quelqu'un d'inutile. Et il a quand même fait tuer un homme intègre. Ça, c'est une autre paire de manches aussi. Il a commis des choses sanguinaires, enfin il a fait des choses qui ne sont pas bien. Et quand David a commis toutes ces choses, qu'est-ce qu'il méritait? Selon la loi de Dieu, la mort. David, si on avait appliqué la loi de l'Ancien Testament, il méritait la lapidation. Alors, pourquoi il n'a pas été jugé? Pourquoi il n'a pas été jugé par la loi? C'est quand même une question qu'on peut nous se poser. Parce qu'au moment, écoutez bien cela, parce qu'au moment où il a été confronté à son péché, il n'a pas fui. Il l'a reconnu et il s'est humilié. Il a reconnu que Dieu devait le juger. D'ailleurs, il dira, si tu me juges, tu seras juste dans ton jugement. Nous avons lu tout à l'heure à la Sainte-Seine un verset qui devrait nous servir davantage. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est dans le cadre de la Sainte-Seine, et David a été honnête. Quand il a été confronté à son péché, il a dit « oui, oui, je suis cet homme-là, j'ai péché ». C'est pas tout le monde, quand il est confronté à son péché, qui dit « oui, j'ai péché ». Non, c'est pas ma faute, il y a des gens qui cherchent des excuses. Il aurait pu trouver des excuses, ça, David, face à cette affaire d'adultère. Est-ce qu'il aurait pu trouver des excuses? Bien sûr, mais c'est la faute à la femme. Elle n'a pas qu'à se baigner toute nue là-bas. Non mais sérieusement, est-ce qu'il n'y en a pas qui aurait dit, mais c'est elle qui m'a tenté, c'est pas elle, mais c'est le diable, c'est le coup du diable. Est-ce qu'il aurait pu faire comme ça? Mais oui, rappelez-vous dans le jardin d'Éden, quand Dieu a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé Adam? Ah c'est la femme, pas moi. Et alors Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Ah c'est pas moi, c'est le serpent. Et souvent on réagit comme ça. On cherche des excuses. Quand on a des excuses, on n'a pas besoin de pardon. Et n'essayons pas... Quand il y a un problème, il faut le reconnaître. Oui, j'ai péché. C'est facile d'accuser le diable, mais vous savez, à force de tout diaboliser. Et dans notre mouvement, on l'a souvent fait ça. De tout diaboliser. Ce n'est pas une chose excellente. Ce n'est pas bien. Je crois que le diable a ses ruses, ses méthodes et ses manigances. Mais je crois aussi que Dieu a fait de nous des gens responsables. Et que quand on a commis un péché, il faut l'assumer. S'il n'y a que les pécheurs qui reconnaissent, les vrais pécheurs qui reconnaissent qu'ils ont besoin de pardon. Et David, il a eu droit à la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La grâce l'a accompagné. C'est pour ça qu'il a été heureux. C'est ça la grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce maintenant. J'ai besoin de ta grâce. Est-ce que vous voulez continuer à recevoir la grâce de Dieu? Est-ce que vous y croyez toujours à la grâce de Dieu? Est-ce que vraiment vous dépendez de la grâce de Dieu? Il y a des chrétiens qui ne dépendent pas. Je discutais avec une chrétienne il y a 10 jours. Dans un entretien, j'ai eu à cœur d'aller la visiter. Je lui ai dit, mais voilà, je résume l'entretien. Et au bout d'un moment, elle me dit, mais comment je vais faire? Elle m'a fait penser aux païens, exactement comme les païens. Mais j'ai dit, mais mademoiselle, vous ne connaissez pas la grâce de Dieu? Ah non, j'ai complètement zappé. Une chrétienne qui ne réalisait pas que la grâce de Dieu est une réalité. Le bonheur par la grâce. Oui, le salut, c'est par grâce. Mais je suis désolé, il n'y a pas que le salut. Il y a toute la marche avec Dieu qui doit être vécue dans sa grâce. Le bonheur par la foi, le bonheur par la grâce. Troisième élément du bonheur, psaume 25. Ce point-là, je le développerai mardi soir parce que c'est impossible de l'expliquer en 5 minutes. Dans le psaume 25, David, toujours David, exprime que le bonheur est pour une catégorie de personnes. Alors là, je peux vous dire que beaucoup de chrétiens sont loin d'être dans cette catégorie, hélas, je dois le dire. Psaume 25, verset 12, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ?» C'est une question, vous savez que j'ai l'habitude de dire que les questions, elles sont posées par Dieu pour que nous répondions. C'est à nous de répondre, c'est la moindre des politesses. « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ?» L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir, son âme reposera dans le bonheur. L'homme qui craint l'Éternel, son âme repose dans le bonheur. Alors c'est un grand, grand, grand sujet. Il faudrait sérieusement une dizaine de prédications pour bien expliquer ce qu'est la crainte de Dieu. On a tellement, tellement parlé dans nos églises de l'amour de Dieu, sans parler de la crainte de Dieu, que cet amour est un amour sentimental mou, qui ne correspond pas en vérité au véritable amour de Dieu. Les chrétiens doivent être pétris de l'amour de Dieu, mais les chrétiens doivent être également attirés par la crainte de Dieu. Le bonheur, ce texte nous indique, par la direction divine grâce à la crainte du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens, je le répète, ne sont pas heureux. Je suis conscient de ces choses. Beaucoup de chrétiens, excusez-moi l'expression, mais se traînent comme des païens, parce que quand même, ils ont du bonheur en espérance. Mais ils ne vivent pas la vie sur la terre comme ils devraient la vivre. Parce que ils ne saisissent pas cette notion de la crainte de Dieu. Vous avez vu, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Dieu ne choisit pas pour nous. Il y a des gens, ils attendent que Dieu choisisse à leur place. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que Dieu a fait de nous des gens responsables. Il nous montre la voie et nous choisissons la voie. Et quand on choisit la voie que Dieu nous montre, eh bien on a du bonheur. Combien de fois David a consulté Dieu, Dieu lui a montré ce qu'il devait faire et il l'a fait. La Bible est un livre de conseils. Vous aimez les conseils? Des gens qui ne supportent pas les conseils. Il y a des gens qui ne supportent pas les conseils. Moi, je suis très réticent, mais certaines personnes, je n'ose plus leur donner des conseils parce que chaque fois, ils réagissent mal. Non, 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 je sais ce que j'ai à faire. Mais c'est très bien. Moi, je trouve que c'est bien de conseiller les uns les autres. Paul disait, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Il y a des gens, ils ne veulent pas les conseils, ils veulent leur truc à eux. Ça, c'est une autre affaire, une autre paire de manches. Là, la crainte de Dieu, c'est quoi la crainte de Dieu? Je le dis en quelques minutes, mais la crainte de Dieu, c'est ce respect. Quand il est dit, mais offrons notre reconnaissance à Dieu en rendant un culte avec piété et avec crainte. Un culte, c'est, j'arrive pas avec mon chewing-gum à l'heure que je veux, c'est pas grave si je suis en retard. C'est déjà un manque de respect. Quand on a alors je ne vais pas revenir sur des choses basiques, mais la crainte de Dieu, c'est le respect. Dieu me demande de l'adorer, je l'adore. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Dieu me donne le servir, je le sais. Alors, on verra ça mardi parce que c'est trop, trop important pour le voir en quelques minutes. Mais la crainte de Dieu, c'est quelque chose d'important. La crainte de Dieu, eh bien, je déteste ce que Dieu déteste. D'ailleurs, il y a deux versets qui disent dans les psaumes, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Ça résume très bien la crainte de Dieu. Quand je vois, quand j'entends certains croyants, les propos qu'ils ont, le vocabulaire qu'ils ont, les films qu'ils regardent, les jeux vidéo, les jeux de rôle qu'ils utilisent. Il m'est arrivé sur mon bureau dernièrement un jeu vidéo qu'on a prêté à un de mes fils sur un jeu de rôle. Il y avait écrit en sous-titre « Assassin, ma destinée ». C'est un truc de vengeance, c'est un jeu de rôle où il faut tuer des gens en pagaille. Bien sûr, c'est qu'un jeu. Je vois mal Jésus jouer à la PlayStation, vous voyez là-dessus. Mais moi, ma femme en a pleuré. En voyant le truc, elle m'a dit, c'est pas possible. Elle en a vraiment pleuré. Quand on a la crainte de Dieu, je crois qu'on se sépare du mal. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est le commencement de la sagesse, c'est vrai. Mais je peux vous dire qu'il est écrit que c'est la haine du mal. On n'a pas le temps, c'est un sujet trop compliqué. Mais enfin, une chose est sûre, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il est conduit par Dieu et son âme obtient le bonheur? Et c'est une question que nous devons nous poser. Est-ce que vraiment j'ai la crainte de Dieu ou je fais ce qu'il me plaît? Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui passe avant sa propre volonté. Est-ce que vous le comprenez? Voilà quoi, on reconnaît quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu. Il y a des gens, vous savez, entre choisir entre le culte et la sortie au ski, ils ont vite choisi. Et on pourrait multiplier les exemples. Je ne dis pas qu'une fois en passant, on peut s'autoriser. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais moi, je crois que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, la volonté de Dieu passe avant la propre volonté. On en reparlera. Le quatrième point, le dernier, c'est dans le psaume 65 que nous le trouvons. Dans le psaume 65, alors là, c'est méditer cela, parce que là aussi, je n'aurai pas le temps de tout développer. Mais David exprime le quatrième point qui fait qu'un chrétien peut être heureux. J'espère que vous notez ces versets. Je vous assure, vous ne pourrez pas les retenir. Il faut les méditer. D'ailleurs, David l'a dit, heureux l'homme qui médite. Psaume 65, verset 5. Heureux, voyez, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Regardez la suite. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Le bonheur dépend du fait que Dieu veut nous conduire dans sa maison. Est-ce que vous avez du bonheur à vous être retrouvé cet après-midi dans la maison du Seigneur? Vous n'avez pas répondu tous. Ça ne va pas, ça. Ça me contrarie. Je reformule ma question. Est-ce que pour vous, c'est important de vous retrouver dans la maison du Seigneur et de dire, c'est quand même une grâce d'être dans un pays libre, de pouvoir venir dans la maison du Seigneur, ou est-ce qu'aller au culte, c'est un devoir, comme le devoir conjugal? Quelqu'un me disait dernièrement, vous savez, la Bible dit que le mari rende à sa femme, que la femme rende à son mari ce qu'il lui doit. La femme disait, mais les relations sexuelles dans le couple, c'est un devoir? Je dis, si c'est qu'un devoir, ça ne va pas aller. C'est un devoir, mais ça ne doit pas être qu'un devoir. Mais c'est valable dans les autres domaines. Aller à l'église, quelque part, c'est un devoir d'aller à l'église, adorer Dieu. Mais si c'est qu'un devoir, je vous avoue que ça serait quand même tristounette que d'aller à l'église, ça soit un devoir. Vous me suivez? Le bonheur de se retrouver dans la maison du Seigneur pour le servir. Le bonheur d'être fidèle à sa maison. Le bonheur de sa présence. Est-ce que vous réalisez la présence de Dieu? Bien sûr qu'il est là. Mais tout à l'heure, quand vous allez marcher dans la rue, est-ce que Dieu est dans la rue? Est-ce que Dieu va être dans votre voiture? Eh bien oui, Dieu est partout. Le problème, c'est ça, on ne peut pas le fuir. Il y a des gens qui cherchent Dieu, mais en vérité, on ne peut pas lui échapper. C'est ça. Et David avait appris, c'est pour ça. Il avait appris à goûter au bonheur de la présence de Dieu. Nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, en plus, nous devons goûter cette joie, le bonheur de la présence. Alors David a été heureux, Il n'a pas été heureux parce qu'il a été roi, il n'a pas été heureux parce qu'il était riche, il n'a pas été heureux parce qu'il avait un palais, il n'a pas été heureux parce qu'il avait des serviteurs et des servantes en pagaille, il n'a pas été heureux parce qu'il a gagné plein de batailles, il a été heureux parce qu'il avait une véritable foi en Dieu. Il a été heureux parce qu'il a goûté continuellement à la grâce. Il a été heureux parce qu'il s'est laissé guider par la crainte et il a été heureux parce qu'il vivait dans la présence du Seigneur. Voilà comment on trouve le bonheur. Et je vous encourage à méditer ces textes, vraiment à les méditer. Je vous assure, ça aurait pu être une réunion d'évangélisation, mais je vous assure que ce sont des choses que l'on doit découvrir une fois qu'on est chrétien également. Et si nous nous appliquions à mettre en pratique une foi vivante, cette grâce au quotidien, Seigneur, enseigne-moi la crainte, peut-être que ça vous est égal, vous regardez des saletés à la télévision, eh bien, c'est votre problème. Mais Seigneur, enseigne-moi la crainte, c'est vrai que ce n'est pas normal que je regarde des trucs comme ça, puisque je dois m'en éloigner. Beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux parce qu'ils tolèrent ces choses. Ils tolèrent, ils ont facile en plus. Mais d'autres chrétiens le font. Quand vous allez passer devant Dieu, c'est avec ça que vous allez vous présenter. Ah, mais d'autres le faisaient. C'est pas dit que vous les retrouviez, ces gens-là, en plus. Seigneur, enseigne-moi la crainte de ton nom. David l'a demandé. Vous pouvez le demander. Est-ce qu'on peut demander au Seigneur la crainte? Enseigne-moi la crainte. Est-ce que c'est une prière qui peut plaire à Dieu, ça? Un peu. Seigneur, enseigne-moi la crainte. Vous verrez comment Dieu va vous aider. Et enseigne-moi à trouver ma place dans l'Église. Je me suis réjoui hier de voir une jeune fille qui vient d'arriver sur Toulouse. Elle vient faire ses études, elle est chrétienne. Elle m'a dit, Monsieur Gau, je viens passer 3 ou 4 ans à Toulouse, mais je veux trouver ma place dans la maison du Seigneur. Est-ce que c'est bien? Les 3 ou 4 ans que je vais être à Toulouse, y a-t-il quelque chose à faire? Donnez-moi une fonction, donnez-moi quelque chose à faire. Je veux servir le Seigneur. Ça ne m'étonnerait pas que cette jeune fille soit heureuse, les 3 ou 4 ans qu'elle va passer à Toulouse, à servir le Seigneur. Voilà, ce sont des choses évidentes, mais il faut les revoir, les partager. On va fermer les yeux quelques instants. Hein? Je vous encourage à revoir chacun de ces textes. Je vais demander à M. Gaillard de bien vouloir venir à ma place, s'il vous plaît, et de prier. Vous pouvez venir là? Je voudrais que vraiment on soit sérieux. On est sous le regard de Dieu. Mes frères, Dieu est intéressé à votre bonheur parce que votre bonheur est un témoignage. Dans ce monde détruit, enténébré, qui n'a plus la protection, vous avez vu ce qui s'est passé à Rivesaltes, ces 3 hommes qui se sont fait tuer par ce gars, parce qu'ils ne sont pas sous la protection du Seigneur. Mais nous, nous sommes sous la protection du Seigneur. Que son nom soit béni. Et c'est pour cela qu'il faut dépendre de Dieu. Sa grâce, je répète, une foi vivante, la crainte, le service joyeux dans l'Église. Méditons sur ces choses et prions maintenant. Que la volonté de Dieu soit faite dans vos vies, surtout vous qui n'êtes plus heureux. Je m'adresse à vous les chrétiens, vous qui n'êtes plus heureux. Vivez cette prière que notre frère M. Gaillard va faire et dites Amen et appliquez-vous à développer ces 4 vertus que nous avons partagées cet après-midi.
Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as laissé ta parole. Elle est esprit et vie, et nous la recevons dans nos cœurs de ta part, par l'action du Saint-Esprit. Mon Dieu, aide-nous à ce que nous ayons en nous ces 4 éléments, la foi, la grâce, la crainte, et être dans ta maison. Seigneur, nous voulons aller plus loin, et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui t'obéissent. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse, mon Dieu, se sonder, afin que nos cœurs, mon Dieu, soient exempts de souillure et que tu puisses faire, mon Dieu, le siège de notre vie. Seigneur, dans ta bonté insondable, secours-nous, parce que nous ne sommes que des êtres humains, sans force et sans valeur, mais nous nous référons à Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, qui a à la croix remporté la victoire. Seigneur, c'est à cause de cela que nous proclamons cette victoire qui nous a été acquise. Et nous voulons te dire, Seigneur, merci, parce que nous recevons ta parole, nous voulons la mettre en pratique, nous voulons marcher, mon Dieu, dans tes voies, afin que tu sois heureux, mon Dieu, de nous voir, et que nous trouvions ce bonheur dans nos cœurs, parce que c'est toi-même qui l'y auras déposé. Veuille, Seigneur, s'il te plaît, dans ces moments, mon Dieu, nous garder dans la paix de ta présence. Que ces propos, mon Dieu, que nous avons reçus ne soient pas, mon Dieu, évanouis dès que nous sortirons, mais qu'au contraire, nous puissions les méditer, les repasser sur nos cœurs, et ainsi, mon Dieu, avancer dans la voie de la sanctification. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, dans cette soirée encore. Garde-nous dans le creux de ta main. Et que ta bonté infinie nous soit, mon Dieu, favorable, cela parce qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu, mon Dieu, l'abondance des choses qui concernent le royaume des cieux. Merci pour ces moments, Seigneur, et que ton saint et glorieux nom soit sanctifié. À toi seul en revient la gloire éternelle. Amen.